Relisons donc cette histoire dans l'Évangile selon Luc, toujours, au chapitre 19, les 10 premiers versets. Jésus entra dans Jéricho et il traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, et comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi, aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, si je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, avant de commencer, peut-être un petit sondage rapidement. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent de près ou de loin dans l'administration fiscale ? Vous pouvez lever la main, on n'est pas à l'époque, vous voyez, c'est pas Zachée non plus. Personne ? Ça veut dire que je vais pouvoir tout lire alors. Je vais pouvoir me lâcher, oui. Bon, ça ne porte évidemment pas là-dessus, hein. C'est pas le centre du texte. Il y a bien une rencontre étrange entre un personnage peu recommandable et Jésus qui passe par là. Une histoire de curiosité satisfaite, une rencontre qui a été voulue, cherchée et qui a abouti à quelque chose d'étonnant. La rencontre entre Jésus et Zachée se déroule à Jéricho. Le rôle de Jéricho ne m'apparaît pas très clair là-dedans, sinon que c'est une ville chargée d'histoire, vous le savez, puisque c'est le premier lieu qui a été conquis par le peuple hébreu sous la conduite de Josué, le successeur de Moïse. C'est le premier lieu qui vraiment est conquis au moment de la prise de possession de la terre promise. Jéricho n'est qu'une étape pourtant, et pas un lieu de conquête ou de commémoration, puisque Jésus en réalité fait route vers Jérusalem, ce que Luc précise aussi. Et il fait route, si vous suivez la succession des chapitres, après le chapitre 19, il y aura bientôt l'entrée dans Jérusalem qu'on reliera au rameau, hein, pas pour tout de suite. Et puis ensuite la Passion. Donc il est en route vers Jérusalem pour une Pâque qui sera la dernière. C'est ça le contexte. Donc Jéricho n'est pas une entrée en matière, c'est plutôt un lieu de conquête très lointain dans le passé et qui n'est qu'une étape vers peut-être une autre conquête, celle-là moins fracassante. La rencontre avec Zachée, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il vaut peut-être bien davantage que l'idée que les autres se font de lui. Et même qu'il vaut mieux peut-être que ce qu'il a fini par penser de lui-même, à force d'être regardé de cette manière. Le nom Zachée, c'est aussi un point amusant dans ce texte, vient de l'araméen Zakai, qui signifie le juste, et qui dérive de l'hébreu ou signifie pur ou innocent. Zachée, le bien-nommé, vous voyez ? Sa réputation, évidemment, est un peu différente. Il est chef des collecteurs d'impôts, pas simple petit percepteur, hein, c'est un chef de service, et on nous dit qu'il est riche. Il incarne surtout, on comprend pourquoi il est détesté auprès de ses contemporains, il incarne la trahison, la cupidité, la compromission, enfin il incarne un petit peu tout ça, il est très mal vu ce personnage. L'administration fiscale, c'est surtout l'Empire romain qui est derrière, c'est dans la poche de l'occupant que vont les sommes prélevées, On a bien dû boucher quelques nids de poules, refaire le goudron ou réparer quelques abribus, si vous voulez. Mais c'est quand même l'Empire romain qui empoche. Et lui, qui est issu de ce peuple occupé, travaille pour eux. Vous imaginez sa situation. Donc, c'est un homme détestable qui s'est enrichi sur le dos des siens. Voilà, c'est comme ça qu'il est vu. Il ne pouvait pas être vu autrement, compte tenu de ses occupations. On le méprise. Tout le monde le fuit. C'est une planche pourrie. Et pourtant, parmi toute cette foule, c'est lui que Luc discerne comme celui qui court le plus vite en avant, qui monte le plus haut pour aller voir ce Jésus qui passe. On ne sait rien du tout de ses motivations. On ne sait pas pourquoi il va le voir, s'il est attiré par un personnage qui a une petite célébrité, ou on ne sait pas. Mais le récit, en tout cas, commence par ce mouvement. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Ce n'est pas rien chercher à voir, faire cette démarche. Dans l'évangile de Luc, si vous le relisez d'une traite, comme ça, vous verrez que souvent, voir, regarder, chercher quelqu'un du regard, c'est souvent le début de quelque chose, d'un changement, d'une conversion, de quelque chose d'important pour les personnages qui cherchent à voir Jésus. Zachée n'est pas le seul qui cherche Jésus du regard. Alors, Zachée, il est beaucoup de choses, il est détesté pour ce qu'il est, mais il est surtout, pour Luc, un curieux. Et sa curiosité n'est pas superficielle, il sent peut-être confusément que quelque chose lui manque malgré tout ce qu'il a amassé, malgré la richesse accumulée, parce qu'au fond, il cherche non seulement à voir Jésus, mais aussi à se faire voir en se mettant en hauteur, pour peut-être enfin être vu autrement. C'est peut-être ça qu'il cherche par ce mouvement. Mais ce n'est pas facile. Il est englué dans la foule qui l'entoure. On imagine un énorme chewing-gum dans lequel ses pieds seraient collés et dont il n'arriverait pas à se défaire. La foule l'empêche à la fois de voir, elle bouche, elle fait écran, elle l'empêche d'être vue. Elle est vraiment l'obstacle par excellence de ce qu'il essaie de faire. La foule, c'est cette masse anonyme qui le juge et qui a de bonnes raisons pour ça. La foule est un obstacle non seulement physique, parce qu'il est de petite taille, c'est arrivé à des gens très bien, mais aussi symbolique. Elle représente ce regard qui le maintient à sa place d'exclu moral. On ne veut pas entendre parler de lui, on ne veut pas le voir là. Vous imaginez les murmures dans cette foule. Il y a peut-être des lampions, des ballons, les enfants ont des glaces, c'est un peu la fête. Et lui débarque au milieu, tous ces gens qui grognent en disant « Ah ben, il ne manquait plus que lui ». Alors franchement, il a osé, voilà, il a osé venir là. Zachée augmente la cadence, il marche, puis il se met à courir et il grimpe. La foule ne l'a pas arrêté, premier obstacle vaincu. Il grimpe sur un sycomore, ce geste d'ailleurs, hein, pour un homme de sa position, pas de sa taille, hein, mais de sa position sociale, est assez absurde, c'est même assez ridicule, presque indécent de grimper sur un arbre pour faire « youhou » à quelqu'un qui passe. Vous imaginez, c'est un notable quand même. Un chef de service fiscal qui grimpe à un arbre, ça pourrait être le titre d'ailleurs. On nous a donné d'autres sous-titres dans la Bible, mais ça aurait pu être ça. Chef du service fiscal qui grimpe à un arbre, préfiguration de l'ascension peut-être, on ne sait pas. En tout cas, si le ridicule ne tue pas, mais il faut quand même se méfier, le ridicule ne compte plus pour lui quand le désir est là et qu'il est authentique. Ça passe derrière, au deuxième plan. Zachée ne se soucie plus de l'image qu'il donne. Il veut voir coûte que coûte, et ce geste de monter est peut-être déjà un mouvement de ce qui se passe spirituellement chez lui. Il faut du courage, il faut quelque chose à l'intérieur qui veut s'élever pour grimper à un arbre, pour être vu de celui dont il attend quelque chose. Il quitte le sol, mais il quitte aussi le sol de ses certitudes, il prend de la hauteur sur lui-même. C'est déjà pas mal, il faut dire qu'il part de loin. Et voici que Jésus passe par là et lève les yeux. Le texte pourrait s'arrêter là parce que la rencontre a eu lieu. Tout est dit dans ce croisement de regards. Zachée voulait voir Jésus et Jésus finalement le voit aussi. Bon, bah, très bien. On pourrait croire, si on voulait rester classique avec la théologie de la grâce, de dire que c'est toujours Dieu finalement qui prend l'initiative. Mais en réalité, Luc nous montre deux regards qui se rencontrent. Parce que l'un des deux, le premier, c'est Zachée, l'a voulu de toutes ses forces. C'est bien Zachée qui provoque la rencontre. Et Jésus voit Zachée, et il voit en lui, non pas le responsable du service fiscal à la solde de l'occupant, le collaborateur, le filou détesté, le traître, mais un humain capable de transformation, et qui, parmi toute cette foule, est peut-être celui qui a fourni le plus gros effort. Et il l'appelle par son nom, Zachée, le juste. Lui, tout le monde considère comme un arnaqueur, le juste, Zachée. Il l'appelle comme on appelle un ami, comme Dieu appelait Moïse par son nom au milieu du buisson ardent pour mieux lui révéler le sien. « Je connais ton nom et je vais te dire le mien. » D'une certaine manière, Jésus fait un peu la même chose dans ce texte. Ce simple appel, en tout cas, renverse tout. Le honteux haut perché descend pour accueillir celui qui le relève. Que d'aller venu, hein ? Jésus ne lui demande pas de confesser ses fautes, ni de faire ses preuves. Il lui dit simplement « Dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors, « il faut », non pas au sens de contrainte, mais parce que c'est la logique même du royaume. Si tu as compris ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, et si moi aussi j'ai bien compris, alors il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Là où il y a une brèche dans nos propres règles, c'est Dieu qui s'invite, peut-être parce qu'on a eu le courage de lui ouvrir la porte. Zachée descend avec joie, nous dit Luc, avec une belle spontanéité. Déjà, la foule grommelle dans son coin. Il est allé habiter, loger chez un pêcheur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ça murmure. La logique de la grâce dérange toujours. Une morale publique, ou ce qui est admis. Une morale qui aurait certainement préféré qu'on lui mette la main dessus pour lui faire rendre ce qu'il a. Jésus, sans aucune remarque, se contente de s'inviter chez lui. Le salut commence par un repas, c'est souvent le cas dans la Bible, hein, on mange beaucoup, un repas de la convivialité, de l'hospitalité mutuelle. Ils se reçoivent l'un l'autre. Et c'est que les autres, la foule, ne comprend pas. Voilà, c'est un accueil mutuel. Dans la maison de Zachée, il n'y a rien de cultuel, pas de temple, pas d'autel, pas de liturgie, pas de manière de faire particulière. Il y a la simple présence du Christ qui change tout, et ça suffit comme ça, apparemment. Ça suffit à rendre la maison sainte. Tout ce qui devait advenir est déjà là. Le salut, ça n'est pas un lieu, c'est une relation, ce n'est pas un rite, mais c'est plutôt une rencontre. Et quand ça a eu lieu, alors nous pouvons, nous, avec nos gestes, particuliers, nos paroles, entourer, enrober, porter cette chose qui a eu lieu. Ce n'est pas la pureté morale qui compte là-dedans, d'ailleurs, qui la détient ? Peut-être même pas la foule qui grommelle dans son coin, sûrement pas d'ailleurs, elle doit avoir d'autres choses à se reprocher. Ce qui compte ici, c'est la recherche d'une brèche pour s'en sortir. C'est ce que Zachée a su faire. Alors Zachée se lève et il fait cette déclaration étonnante. « Voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Et ça, c'est énorme. Hein. « Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si éventuellement j'ai pris de l'argent à quelqu'un, alors qu'il fait ça toute la journée quand même. Hein. » Vous voyez, la conversion, ce n'est pas une condition du salut. C'est quelque chose qui se déclenche chez lui parce qu'il sait qu'il l'est et qu'il est regardé enfin autrement. Alors, il est capable de dire ce qu'il dit. Et peut-être de rendre une partie au moins. On n'a pas assisté au partage après. Hein, parce que la foule va se dire, vous avez bien entendu. Et il a dit qu'il rendait quand même. Donc, on va se presser chez lui, et, tu me dois tant, etc. On ne sait pas les conditions de ce partage, mais il est prêt, en tout cas, à reconnaître qui il était, parce qu'il ne l'est plus, ou plus tout à fait. Zachée, l'homme caché, retranché, retrouve sa place dans la communauté parce qu'on lui a dit son nom, et on a dit à quoi il était attaché exactement au même titre que les autres. Lui aussi est un fils d'Abraham. Eh oui, comme vous. Le regard de Jésus répare l'identité de cet homme qui était enfermé dans sa fonction et ce qu'on avait à lui reprocher. Mais il n'est plus défini par ses fautes, par son appartenance plutôt à une promesse. Et ça, ça change tout. Être vu comme ça. C'est un peu ce que font les aumôniers de prison quand ils annoncent dans des cellules « Tu es autre chose et plus que ce que tu as fait ». Ce n'est pas facile à dire, ce n'est pas facile à entendre ni pour celui qui est visité dans une cellule, et ce n'est pas facile à entendre de la part de l'institution qui le loge. Mais c'est vrai. Et puis, les paroles qui invitent Zachée à redescendre ne sont pas une promesse de dégringolade. C'est l'annonce d'une réintégration en bonne et due forme. Voilà dans quoi tu es. On pourrait t'en exclure à cause de ce que tu as fait, mais moi je te remets là où tu es, je te renvoie chez toi. Le récit se conclut par une phrase qui résume tout l'évangile. Le Fils d'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je pense que chacun de nous a, je crois, quelque chose de Zachée, même quand on ne travaille pas pour l'administration fiscale. Il nous faut souvent, nous-mêmes, grimper sur notre propre sycomore ou celui qu'on trouve à l'endroit où on se trouve, prendre un peu de recul, un peu de hauteur, oser un geste différent, accepter de nous rendre parfois peut-être un peu ridicules aux yeux du monde, mais peu importe. Mais pour être vu au fond tel que nous sommes, sans masque, et d'être appelé par notre nom. Dans la tradition spirituelle, le sycomore, paraît-il, est devenu le symbole de ce lieu intérieur où on cherche à apercevoir Dieu. Ça a été évidemment tiré de ce récit, hein. Il n'y a pas de foi sans un mouvement de montée. Pas pour dominer, parce qu'il est vite redescendu, et puis il n'était pas de taille à être dominant, mais pour discerner dans un premier temps. Il faut monter pour voir loin. Grimper sur son sycomore, c'est prendre distance par rapport à la foule, des opinions, des dogmes, des habitudes, même religieuses, hein, pour trouver la fraîcheur du regard de celui qui nous attend en bas. C'est ça, cette première montée. Bizarrement, dans cette histoire, c'est en montant qu'on apprend à descendre. Ça aurait pu être un bon titre aussi, hein. Le salut ne se joue pas dans l'élévation, ce n'est qu'un premier mouvement, mais dans la descente vers l'humain, vers la maison, vers la convivialité, vers le quotidien, vers le maintenant. J'habite chez toi. Zachée est transformé complètement par cette rencontre. Il traduit sa joie en gestes concrets. Il veut partager, réparer, faire justice, etc. Et on espère qu'il l'a fait, au moins en partie. Il montre aussi que dans cet élan, ce qui jaillit chez nous sous une forme de foi, de confiance, se transforme vite en une éthique, un comportement, une manière de faire, pas par obligation, mais par élan. C'est ce que nous rappelons dans nos cultes de temps en temps. Voilà ce que Dieu nous donne la force de faire. Être accueilli sans condition engendre une forme de responsabilité. Nous ne croyons pas à un salut magique, mais à quelque chose d'incarné, celui qui se manifeste dans la justice, dans l'accueil et dans la solidarité. Chaque fois que nous laissons le regard du Christ nous atteindre, il y a beaucoup de manières pour accueillir ce regard, nous devenons à notre tour des artisans de réconciliation. Bonhoeffer écrivait dans « Résistance et soumission » « Être chrétien, ce n'est pas fuir la terre vers quelque idéal céleste, mais vivre pleinement sur cette terre en présence de Dieu ». Le mot-clé de notre texte du jour, c'est « aujourd'hui », là, tout de suite, maintenant. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, c'est ce qu'entend Zachée. Ça équivaut presque à un « tout est accompli », hein, ici. L'Évangile ne parle pas du passé, ni seulement de l'avenir, même s'il nous y engage. Il parle aussi du présent, de cet instant où quelque chose s'ouvre, où le regard change. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Le fameux « kairos », comme on dit en grec, pour faire pédant. Comme on dit, le moment favorable, hein, c'est ce que veut dire ce mot. Le moment où le royaume s'approche, non pas de manière fracassante, mais dans la simplicité d'une invitation qui dit « dépêche-toi de descendre, parce que il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». évidemment, il nous appartient chacun, chacune, mais aussi comme Église, comme communauté, d'entendre cet appel, chacun à notre manière. Comme Zachée, nous laisserons le Christ demeurer dans nos maisons intérieures, c'est-à-dire dans nos zones d'ombre, nos fragilités, nos contradictions. Un petit aller-retour dans un sycomore de passage, et puis il faudra redescendre et accueillir celui qui nous attend en bas. Et sans qu'il soit besoin d'ordre, ni de menace, le salut se fait. Et il se fera encore et encore dans la joie d'accueillir, dans le courage de réparer, dans la paix sans équivalent d'être enfin vu et accepté comme nous sommes. Amen.